Bonjour, c'est un mouvement de ras-le-bol général, mondial, général, généralisé. La finance vacille, la finance va mal, ça, nous l'avons compris. Certains occupent Wall Street, d'autres, plus hispaniques, s'indignent, et ils marchent. Samedi d'ailleurs, c'était la journée mondiale des indignés. La finance, nous y comprenons pas grand-chose, avec Alexandre, qui est là pour animer avec moi. Alors nous avons invité avec nous des spécialistes pour en parler ce soir à Zoom Écologie 106.3 Zoom Écologie. C'est parti.
Bonsoir. Donc je suis Emmanuel Beau.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien? Ça va, Sophie?
Parfait.
Bon, on a Cyril à la technique aujourd'hui. Merci, Cyril. Et donc, comme vous expliquez, Sophie, mais j'ai rien entendu à l'intro parce que mon casque n'a marché finalement pas très bien. Enfin bref, on va parler de finance et quels sont les moyens de faire de la finance autrement. Est-ce qu'on peut lutter contre cette
puissance? Est-ce que c'est possible de faire de la finance autrement?
Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut émettre des contre-pouvoirs sur cette finance qui paraît nous menacer? On a plein d'invités aujourd'hui. On a un invité qui est en retard, donc on ne va pas commencer avec eux. Ce sera le directeur général de l'organisation Finance Watch.
Qui arrive au moment où tu parles de lui.
Qui arrive au moment où je parle de lui, c'est fantastique. Bon, bah alors Thierry Philipponin, il va s'asseoir à ma droite. Et on va attaquer tout de suite. Alors, je vais présenter les autres invités. Comme ça, Philippe, vous avez le temps de vous asseoir. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Absolument. Je suis ravi d'être ici.
Merci.
Et vous êtes bien de Finance Watch?
Absolument.
Vous n'êtes pas là par hasard?
Je ne suis pas là par hasard. J'ai vu de la lumière, je suis rentré.
Bon, bah, c'est parfait. Toute l'équipe est là.
Alors, c'est ravi.
On va parler. Donc, vous avez raté l'introduction, Philippe, mais Thierry, pardon.
Pas de problème.
Mais on a décidé d'aujourd'hui qu'on allait parler de finance. On est dans une émission qui s'appelle Zoom Écologie. Donc, on parle d'écologie au sens large dans cette émission. Et aujourd'hui, on s'attaque au problème de la finance qui est d'actualité. Et quels sont les moyens de faire de la finance un peu de manière autrement ou de créer un contre-pouvoir comme vous l'avez fait avec Finance Watch. Donc, je présente nos invités et puis on commencera par vous. Donc, nous recevrons dans cette émission également l'association Terre de Liens qui sera représentée par Philippe Casiabu. Vous êtes...
directeur de la foncière Terre de Liens et qu'on joindra... par téléphone tout à l'heure.
Merci, exactement.
Donc voilà un petit exercice technique. Et nous avons également Emmanuel Beau.
Bonsoir Sophie, bonsoir Alexandre.
Bonsoir Emmanuel. Alors vous êtes, vous avez beaucoup de casquettes, on va dire chargé de mission de l'association CIDI, qui veut dire Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement.
Exactement. Alors on verra qu'on n'est pas une association, mais une société anonyme. On verra ce que ça cache
et
comment, en tant que société anonyme, en tant qu'entreprise, on arrive justement à faire des choses légèrement différentes.
Et pas foncièrement occultes.
Exactement.
D'accord. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, on aura donc par téléphone, plus pour donner une vision un peu internationale de ce problème-là, on aura Terre de Liens par téléphone avec Philippe Casiabu, donc qui nous appellera de la Drôme.
D'accord. Exactement.
Voilà. Et on va commencer tout de suite avec vous, donc Thierry Philipponin. Vous allez nous présenter l'idée de cette nouvelle organisation qui est vraiment toute nouvelle, qui s'appelle Finance Watch, comme on veut, qui est née d'une initiative d'eurodéputés.
Absolument.
Notamment d'un monsieur qui s'appelle Pascal Canfin.
Oui, entre autres. Et Pascal Canfin, effectivement joué un rôle
parmi les fondateurs.
Très important.
L'idée de cette organisation, après je vous laisse la parole, c'est de donner un contre-pouvoir un peu au lobby financier, puisque si je me souviens bien, puisque j'ai eu la chance de visiter en fait le Parlement européen il y a presque 2 ans, grâce à Pascal Canfin qui nous avait expliqué déjà cette idée qui germait, ça partait du constat que les eurodéputés étaient inondés ou en tout cas recevaient beaucoup de lobbyistes. Des puissances financières, etc. Mais finalement, recevait peu de gens pour faire le contrepoids de ça.
Absolument.
Donc c'est ça. Je vous laisse un peu nous présenter l'idée.
À l'origine.
Mais vous avez très bien résumé l'origine de Finance Watch. À l'origine, il y a eu un appel de 22 députés européens en juin 2010. Députés, soit dit en passant, de droite, de gauche, écologistes, donc tout à fait transpartisans. qui faisaient le constat qu'ils avaient tous les jours dans leur bureau le lobby de l'industrie financière venant plaider pour ses intérêts privés. Ces députés disaient, soit, pourquoi pas, c'est le système dans lequel on est, pas de problème. Simplement, on ne peut pas faire notre travail de législateur correctement si on n'entend pas, on va dire, l'autre côté de l'argumentaire, qui est l'argumentaire avec un angle d'approche qui soit l'intérêt public et non pas l'intérêt privé.
D'accord. Même si ces lobbyistes présentent souvent leur point de vue comme le point de vue de l'intérêt général.
Absolument. Mmh. On peut même dire qu'ils le font dans 9 cas sur 10, pour ne pas dire 10 cas sur 10. C'est l'un de nos thèmes, j'ai presque envie de dire, d'attaque chez FinanceWatch depuis qu'on a commencé à opérer, c'est-à-dire depuis la fin juin dernier.
Alors vous parlez d'attaque, on vous surnomme souvent le Greenpeace de la finance.
Oui, c'est une bonne comparaison sur plusieurs points, ça aussi ses limites sur un point. C'est une très bonne comparaison sur deux choses. D'abord, tout comme Greenpeace, on a vocation à apporter un équilibre, un contre-pouvoir par rapport aux forces économiques qui plaident pour leur intérêt. Alors après ça, le domaine de Greenpeace, on le connaît, l'environnement, pour faire simple, le nôtre, la finance. Mais il y a la même logique de dire il faut équilibrer les débats et on ne peut pas laisser le débat et le poids du lobbying uniquement aux intérêts, aux forces économiques privées. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose alors en toute modestie, parce que Greenpeace est une grande organisation, nous sommes tout jeunes, donc... C'est une comparaison plutôt c'est plutôt flatteur pour nous et moi j'aime bien la comparaison à ce titre-là. J'ai plein d'amis chez Greenpeace et c'est une belle comparaison. Mais la deuxième chose qui peut nous rendre comparables à eux, c'est que Greenpeace c'est une organisation de professionnels. Greenpeace, ils ont des spécialistes qui étudient les sujets et qui les connaissent très très bien. Et on a clairement l'ambition, la volonté, on est en train de la mettre en œuvre, de faire la même chose. La limite de la comparaison, c'est que les modes d'action ne sont pas les mêmes. Pour une raison qui est simple, c'est que nos sujets ne sont pas les mêmes et ne se prêtent pas au même mode d'action. Donc, on n'a pas un budget pour acheter des Zodiacs et avoir des actions un petit peu spectaculaires.
Et quels sont les axes, du coup, principaux ?
Bah, nous, nos axes de travail, ça consiste déjà à faire de la recherche, de l'analyse, de l'expertise, et puis ensuite à communiquer, à presse, radio, médias, Internet, télévision, et puis, bien sûr, descendre dans l'arène, faire du lobbying. Concrètement, ça veut dire quoi faire du lobbying ? Ça veut dire aller voir les gens qui ont le pouvoir, les élus, les fonctionnaires, les régulateurs, et puis leur expliquer notre point de vue. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le lobby de l'industrie financière déguise souvent ses intérêts privés en intérêts publics. C'est exactement le thème qu'on a donné à une série de papiers qu'on a commencé à publier, qu'on a intitulé, mais tel quel, vous allez voir sur notre site web, c'est écrit tel quel, attention, intérêt privé déguisé en intérêt public.
D'accord.
Donc voilà, il y a un intérêt privé qui consiste en gros à gagner de l'argent, et j'ai envie de dire pourquoi pas, mais à condition que ça soit annoncé tel quel. Par contre, quand c'est déguisé en « Ah, c'est super bien pour la société alors que ça ne l'est pas », là, on sort le carton rouge et on dit non, ça ne va pas.
Alors, j'ai une première question. Le Parlement européen, il existe quand même depuis quelques années.
Oui.
Pourquoi on a attendu 2010 pour partir de ce constat ? Comment les eurodéputés ne se sont pas rendus compte plus tôt qu'ils étaient toujours confrontés au même point de vue, finalement ?
Ils s'en sont rendus compte plus tôt. Il y avait un certain nombre d'eurodéputés qui ont fait ce constat depuis longtemps.
D'accord.
Mais après ça, entre un constat et faire une pression pour que quelque chose comme ça advienne, et puis la réalisation, ça prend souvent du temps. Il est clair que la crise, j'ai envie de dire la dernière, la précédente, celle de 2007-2008,
D'accord.
a accéléré les choses. C'est toujours pareil, quand il y a un choc, les gens se réveillent. Mais d'autres députés, alors il y a eu un certain nombre de députés tout à fait clés, qui ont permis à FinanceWatch d'exister. Si on prend le contexte français, il y en a eu trois clairement essentiels. Il y en a eu d'autres aussi, mais trois clairement essentiels. Pascal Canfin, écologiste, mais également Pervenche Berès, PS, et Jean-Paul Gauzès, UMP. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Et il y en a eu d'autres, hein, même en France, mais ces trois-là ont été tout à fait clés, ce qui montre la nature totalement transpartisane de la chose. Mais bien avant eux, quelques années avant eux, il y avait eu une députée européenne qui s'appelle Ike van den Burg qui avait plaidé pour que quelque chose qui ressemblerait fortement à ce qu'est maintenant FinanceWatch existe. Ike n'est plus députée européenne, Du même coup, elle a pu devenir membre de Finance Watch et elle a même été élue présidente de Finance Watch.
D'accord.
Et c'était une des précurseurs de l'idée de Finance Watch. Alors, Finance Watch n'est pas ouvert aux politiques.
Oui, c'est ça. C'est la question que j'allais poser, ce que je viens de comprendre. Alors,
Finance Watch a été impulsé par les politiques. Et il faut reconnaître une chose, ça arrive souvent de critiquer les politiques. Là, on a quand même un bel exemple de politique qui donne une impulsion avec une logique d'intérêt général, d'intérêt général non partisan, tout en sachant que dès que ça existera, le cordon sera coupé, ils ne seront ni membres, ni a fortiori dans la gouvernance, ils n'auront pas le pouvoir. Moi, je dis bravo, c'est plutôt sympa. Mais donc, bon, en l'occurrence, notre présidente a été députée, mais ne l'est plus. Elle a même quitté toute fonction politique. Du même coup, elle a pu devenir membre. Et puis, comme elle avait les compétences et j'aimerais dire l'aura pour, elle a été élue présidente, ce qui est très bien.
Et alors aujourd'hui, il y a combien de membres ? Qui peut devenir membre ? Sous quels critères ? Pardon.
Alors, on a deux types de membres. On a des membres organisation et on a des membres dits membres qualifiés, qui sont des personnes physiques. Alors, les membres organisation, ce sont des syndicats, des ONG, des associations de consommateurs, des associations de défense des épargnants, des instituts de recherche, des fondations, des associations pour le logement social. Voilà. Il y a 40 organisations de ce type qui représentent collectivement environ 100 millions de citoyens européens. C'est devenu très gros très vite. On est le paradoxe entre guillemets de Finance Watch aujourd'hui, c'est qu'on est tout jeune, mais c'est déjà très gros. Et il y a également 17 membres, donc 10 membres qualifiés, qui sont des personnes physiques qui, comme leur nom l'indique, ont une qualification en matière financière, réglementation financière. Alors ça peut être des professeurs des universités, des chercheurs, des anciens professionnels de la finance. Ça va de Stephanie Griffiths-Jones, qui est une universitaire britannique qui a beaucoup travaillé avec Stiglitz à Columbia, jusqu'à Philippe Lumeau, ancien directeur général de la Bourse de Montréal.
Oui, c'est-à-dire quand on regarde la liste, effectivement, quand on regarde la liste de ses membres, on est frappé par l'expertise, en fait. On sent qu'on a recherché l'expertise plus que des militants ou des politiques, c'est évident.
Tout à fait.
Vous-même, vous avez un parcours plutôt dans la banque.
Absolument.
Hein, sans dévoiler un grand secret.
Il n'y a aucun secret sur le sujet.
Non, mais c'est même intéressant. C'est quand même symptomatique, du coup, je pense, que l'idée derrière cette organisation. C'est que vous avez travaillé 25 ans dans une banque.
Ouais.
Donc, votre engagement, il est arrivé tardivement, quand même, du coup. En tout cas, vous avez une expertise à apporter.
Vous avez raison, je dois être un petit peu lent, j'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. J'ai mis plus de 20 ans à me dire, tiens, il y a peut-être un ou deux trucs qui ne vont pas. Mais oui, bon, je réponds sous forme de boutade, mais oui, j'ai passé effectivement quasiment 25 ans dans l'industrie financière. Mais c'est un petit peu notre... L'alchimie de Finance Watch, c'est essayer d'avoir une large représentation de la société et en même temps d'avoir, sans se prendre la tête, le bon niveau d'expertise pour parler d'égal à égal d'un point de vue technique avec les banques ou l'industrie financière en général.
Donc ces experts qu'on a été cherchés pour mettre dans cette organisation, on appelle ça une organisation ou une association, c'est quoi
Les deux mots vont très bien. Après ça, notre statut juridique, c'est celui d'association, association de droit belge. Voilà.
C'est des gens qui, du coup, maintenant vivent par cette organisation. Donc, non plus de liens avec leur... Et c'est pas des gens qui ont des liens avec d'autres organisations.
Alors, non. Pour être, j'ai envie de dire, avec Finance Watch, que ce soit en tant que membre ou en tant que faisant partie de l'équipe salariée, parce qu'il y a une équipe salariée, il ne doit y avoir aucun lien avec l'industrie financière.
Oui, c'est ça.
C'est marqué noir sur blanc dans nos statuts et... Non pas qu'on veuille diaboliser, ce n'est pas le sujet, mais il faut que les choses soient très très claires, parce que si ce n'est pas clair, par définition, on ne va nulle part. On a même mis sur pied un comité spécial qu'on a baptisé Comité de transparence et d'indépendance, qui a comme vocation de s'assurer que personne ne vienne avec un conflit d'intérêts, un agenda caché ou que
sais-je. D'accord. Et donc, alors vous dites, bon, 40 organisations, 17 personnes membres physiques, c'est une belle organisation pour si peu de temps, mais... Quel poids vous allez, comment vous allez vous organiser pour avoir un petit peu de poids ? Parce que vous avez un budget, j'ai vu, de 2 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui est quand même négligeable par rapport au moindre budget de communication de la moindre industrie financière contre laquelle vous
battez. Vous avez raison, et en même temps on a deux ou trois cartes.
Alors, c'est quoi vos cartes ?
Nos cartes, c'est d'abord 57 membres. On en a plusieurs dizaines littéralement qui frappent à la porte aujourd'hui. Alors, le temps de mettre en place la petite procédure pour les admettre... On va être 80 ou 100 membres d'ici peu de temps. Déjà, 57 membres, on représente 100 millions de citoyens. Mmh. C'est pas tout à fait négligeable. Donc là, il y a déjà un poids qui est considérable.
D'accord.
La deuxième chose, qui est très importante...
Qui va peser vraiment quand vous allez voir des eurodéputés.
Je tiens beaucoup à rester modeste sur ce genre de sujet. Ce que je constate, c'est que les gens nous reçoivent. J'ai même envie de dire, ils nous appellent en disant « venez nous voir, on a envie de vous entendre ».
D'accord.
Il y a 10 jours au Parlement européen, il y avait une audition qui a duré 2h30 devant le Parlement sur les questions de capital réglementaire des banques. Autrement dit, comment est-ce qu'on organise l'industrie bancaire pour qu'elle ne fasse pas faillite à chaque fois qu'il y a une crise ? Sujet d'actualité s'il en est. Il y avait 5 organisations qui étaient auditionnées par le Parlement, dont nous. Bon, on n'a pas demandé à y aller, ils nous ont appelé en disant « on voudrait vous entendre ». Bon, j'en tire la conclusion que notre voix intéresse les élus et les gens responsables. La deuxième chose dans l'alchimie, j'ai envie de dire Finance Watch, c'est de faire travailler les membres qui ont, dans toutes ces organisations, les personnes physiques qui sont membres, il y a une somme de qualifications importante, et puis une équipe qui est elle-même professionnelle, faire travailler tout ce monde-là ensemble pour produire une recherche et des positions qui soient vraiment de très 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 bon niveau. Mmh. Puis après ça, il faut plaider. Alors on est d'accord qu'en face de nous, on a 700 lobbyistes à Bruxelles qui travaillent à temps plein pour l'industrie financière, qui ont un budget probablement de l'ordre de 350-400 millions d'euros par an. Donc si on le présente comme 400 millions contre 2 millions, ça c'est sûr qu'on ferait mieux de rester couché. Si on le présente dans le fait que la quantité c'est bien, mais si on a le bon argument qui porte au bon moment, au bon endroit, on arrive à faire bouger les choses et que les gens ont envie de nous écouter, à ce moment-là, on peut voir les choses autrement.
D'accord.
Vous savez, les élus, ils ne sont pas dupes. Hein. À force qu'on leur répète que si on touche aux banques, on va créer du chômage, au bout d'un moment, ils se disent « bon, c'est bien, vous êtes le 25e à me dire ça ». Alors, il y en a 700 qui disent ça. Bon, j'ai envie d'entendre une autre histoire.
D'accord.
Voilà.
Et c'est une organisation qui va avoir une action sur le Parlement européen, mais est-ce que vous allez aussi avoir une action sur les parlements nationaux ?
Alors effectivement, le Parlement européen, c'est l'un de nos interlocuteurs naturels. Mais alors, avant même d'aller au niveau des parlements nationaux, il y a bien sûr la Commission européenne. Hein, il y a le triptyque à Bruxelles qui est Parlement, Commission et puis le Conseil. Donc il faut qu'on parle aux commissions, à la Commission, au Conseil et au Parlement, parce que ce sont les trois lieux de pouvoir, j'ai envie de dire. Mais également à la Banque centrale européenne, mais également à la Banque des règlements internationaux à Bâle. Mais également, maintenant, il y a des autorités qui supervisent toute l'activité financière en Europe. Il y en a une à Francfort qui s'occupe des assurances, une à Londres qui s'occupe des banques, une à Paris qui s'occupe du marché financier. Ben, ces trois autorités européennes, on leur parle déjà. Et puis les parlements nationaux, dans l'absolu, il faudrait également leur parler. Cela dit, le pouvoir de légiférer en Europe en matière de réglementation financière, c'est à Bruxelles que ça se passe.
D'accord.
Les parlements nationaux ont un pouvoir beaucoup plus faible, qui est un pouvoir d'implémentation ou d'adaptation locale.
C'est ça, ouais, ouais.
Enfin, c'est quand même à Bruxelles que ça se décide.
Ils appliquent, en fait, après.
Ils appliquent dans une large mesure. Après ça, il y a des nuances, parce qu'il y a des différents niveaux juridiques de différents textes. Enfin, dans 80-90%, c'est à Bruxelles que ça se passe.
Et dans les prochains mois, du coup, si on joue le temps qui passe aussi, quelles sont les actions phares dont vous pouvez parler, que vous allez mener ?
Alors, la première action qu'on a menée dès le mois de juillet, c'était sur le sujet de produits dérivés qui permettent de spéculer sur la dette des États souverains et de s'enrichir sur la faillite des États souverains. Alors bon, je vous la fais brève, mais il y avait tout un lobby qui expliquait que ces instruments étaient indispensables pour, on est tous de bonne humeur ce soir, donc on va en rire, pour abaisser le coût de financement des États européens. Voilà, ce qui est juste l'inverse de la vérité. Donc la première chose qu'on a fait dès qu'on a été opérationnel, c'est de sortir un papier bien technique, bien trapu pour dire « c'est faux, voilà, c'est faux ». La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 jours, ça a été interdit par le Parlement. Ça y est, ça vient d'être voté. Je vais pas dire c'est grâce à nous, hein. Mais bon, ça fait franchement plaisir et on a eu probablement 0,01% de.
Ce qui a été interdit, c'est quoi ? C'est le marché des produits dérivés ?
Non. Ouh là.
Non, seulement.
C'est la spéculation, l'utilisation des crédits default swap, qui sont des produits dérivés qui permettent de spéculer sur la dette des États.
D'accord.
Donc l'utilisation de cette catégorie de produits dérivés sur la dette des États à titre purement spéculatif, a été interdite.
D'accord.
Bon, donc on avait, bon, c'est pas nous qui l'avons obtenue, mais enfin, on s'était engagé là-dessus en essayant d'apporter un support technique qui a été repris par certaines voies et ça a probablement eu son utilité. Sujet en masse de travail beaucoup plus gros pour nous, sur lequel on a travaillé tout l'été et sur lequel on est maintenant complètement engagé, c'est le sujet de la recapitalisation des banques et comment est-ce qu'on fait pour avoir des banques qui ne font pas faillite à chaque fois qu'il y a une crise. Pour les capitaliser suffisamment, pour les organiser, j'ai envie de dire, suffisamment bien, pour que le contribuable ne soit pas appelé à la rescousse à chaque fois. Il y a 4-5 ans, on connaît l'histoire. Aujourd'hui, bah, c'est bien parti pour rejouer le même scénario. Comment est-ce qu'on s'organise pour éviter ça? Donc, il y a des réglementations en cours qui sont les réglementations dites de Bâle 3, qui sont en train d'être discutées pour être implémentées en Europe. Là, on a pris des positions, c'est l'audition dont je vous parlais tout à l'heure, très, très claire, qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais bon, ça a fait plaisir à d'autres, devant le Parlement européen la semaine dernière. Et puis, il y a 2 jours, on a écrit, on a fait une lettre ouverte aux responsables européens, aux chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent dimanche prochain à Bruxelles pour savoir comment on va essayer de sauver le système financier européen. Et en gros, cette lettre ouverte, elle dit une chose qui est d'une très très grande simplicité, mais qui est quand même essentielle. Les banques vont être obligées de réduire leur taille parce qu'elles sont juste trop grosses. Elles n'ont pas assez de fonds propres pour leur taille. Très bien, elles vont réduire leur taille. Savoir que les grandes banques européennes ont en moyenne un tiers de leur activité qui consiste à prêter de l'argent à l'économie réelle, à la société, et 2 tiers qui sont du trading, des produits dérivés, autrement dit, pour faire un petit peu simple et bref, de la spéculation. Donc notre lettre, elle est très très simple. Elle consiste à dire aux responsables politiques, si les banques doivent faire une cure d'amaigrissement, qu'ils s'amaigrissent sur le trading et sur les produits dérivés, et non pas sur les prêts à l'économie réelle. Il n'y a aucune raison que la société, les entreprises, les gens normaux, l'économie réelle, souffrent de risques qui sont pris ailleurs sur le bilan des banques. Donc forcer les banques à maigrir, oui, mais à maigrir non pas sur les prêts qu'elles accordent aux gens normaux et à la société normale, mais sur toutes ces activités spéculatives qui, dans le meilleur des cas, je vais être très politiquement correct, ne servent à rien. En tout cas, ne servent à rien pour la société. Donc voilà, donc là, on est en train de faire une grande campagne là-dessus pour qu'on se réveille. Certaines des grandes banques européennes en sont à 80-90% de leur activité qui n'a rien à voir avec les prêts à l'économie. Donc c'est vrai que quand on entend les déclarations de « Ah, si vous nous forcez à être solide », en gros, c'est ce que disent, on va être obligé de réduire nos prêts à l'économie. Tiens, c'est intéressant, vous n'avez que 10 ou 20% de votre bilan qui est des prêts à l'économie et vous choisissez ce 10 à 20% pour maigrir. Et le 80-90% restant, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on dit tout haut et qui, je constate, commencent... Alors, on n'est pas les seuls à le dire non plus, hein, mais commencent à être pris. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment fondamentales.
Alors, on voit que vous êtes sur un marché, un champ de communication qui est quand même très technique.
Oui.
Quel type de communication vous allez avoir vers le grand public? Parce que bon, on comprend que c'est effectivement ouais. Des débats assez complexes. On en a eu un petit aperçu là. Il faut quand même s'accrocher pour comprendre de quoi ça marche, même si ça s'est un peu vulgarisé parce qu'on entend de plus en plus parler. Vous, votre communication, elle va se faire essentiellement vers les gens qui décident, donc à Bruxelles. Est-ce que vous avez des actions aussi envisagées vers les grands publics pour essayer de mobiliser
les
gens?
Oui, tout à fait. On a un gros travail de communication à faire. En fait, on a 3 niveaux de communication. Il y a une communication qui est archi-technique pour les spécialistes, histoire de cadrer le débat. Il y a une communication qui est toujours technique, mais quand même moins, et bon, pour les décideurs, les régulateurs, les élus. Et puis, il y a une communication grand public qui doit être parfaitement exacte, mais par nature plus accessible, quoi. C'est la nature même de l'exercice. Donc, il faut qu'on mette en place ces 3 niveaux de communication.
D'accord.
Ouais. Quand vous multipliez ça par le nombre de langues qu'il faut qu'on couvre, les gens qui s'occupent de la communication chez nous, ils ont un gros travail. Tout n'est pas encore nickel à ce niveau-là chez nous. Mais moi, je pense que c'est tout à fait faisable parce que les grands messages, ils sont très simples. Dire, par exemple, qu'il y a une question qu'on se pose en ce moment, faut-il sauver les banques? La réponse, pour nous, elle est très simple. Il faut sauver la partie des banques qui prêtent aux gens, aux entreprises et à l'économie réelle. Le reste, ben voilà, c'est pas le problème de la société.
Qu'est-ce que répondent les banques à ça?
Ben les banques, elles n'aiment pas du tout. Les banques, elles n'aiment pas du tout.
Elles justifient quoi ? Elles justifient comment ? Elles disent, nous, on a besoin de ces deux tiers pour...
On a besoin de ces deux tiers...
pour aider l'économie réelle, justement.
Voilà, et puis l'efficience des marchés, etc., etc.
Et vous arrivez à leur démontrer le contraire ?
Ben, c'est notre boulot. C'est notre boulot de montrer que il y a énormément d'activités qui, juste, ne contribuent pas à l'économie réelle. Et pour un certain nombre d'entre elles, sont même totalement destructrices.
Pour le coup, je pense qu'il y a un gros travail de vulgarisation.
Ouais.
Parce que dans tout ce que vous dites, effectivement, moi, c'est quelque chose de très jargonneux, le milieu financier, et à mon avis...
Oui, non, mais on en a conscience. On en a conscience. On a conscience que c'est un gros défi.
Si on est aussi perdu avec vous qu'avec tous les discours qu'on entend là... Ouais, ça me pose question.
C'est vrai. Mais
je fais du rentre dedans un peu volontairement.
Allez-y. C'est une vraie question. Mais en fait, la façon simple de le dire, c'est qu'il y a deux conceptions de la finance. Prêter de l'argent aux gens et aux entreprises ou parier sur tout ce qui bouge. Donc, si on dit il faut aider les banques, oui, aidons les banques dans leur activité qui consiste à financer, j'ai envie de dire, la vie. Voilà. Mais ne les aidons pas à financer l'activité qui consiste à parier sur tout ce qui bouge.
Ce qui est une première bonne façon d'aborder la finance autrement. On a aussi sur le plateau d'autres invités qui abordent la finance autrement en devenant financeurs de projets, c'est-à-dire en devenant leur propre banque.
De la vraie finance.
Non, c'est juste un autre moyen. Emmanuel Beau, comment vous définiriez ? Vous représentez l'association CIDI ?
Voilà, alors je commencerai par remercier Thierry pour son exposé et puis par lui souhaiter du courage, de la persévérance. Et je commencerai aussi par le féliciter pour cet effort de vulgarisation vis-à-vis du grand public. Il faut que justement cette science financière, ces questions de jargon, ces techniques, soient compréhensibles pour les citoyens, dans une certaine mesure, pour que justement les arguments d'une communauté... à savoir celle de l'industrie financière, puissent être évaluées, pesées et contrecarrées si nécessaire. Donc pour revenir à la CIDI, c'est Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement. Nous sommes en fait une société anonyme, je reviens là-dessus, avec le label Solidaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On est en fait une société qui a été créée par une ONG, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre Solidaire, en 1983, pour finalement... renforcer et prolonger son action humanitaire, principalement sur un mode de don. Donc en fait, eux, ils travaillent avec différentes organisations associatives, organisations de producteurs, tout un tas d'acteurs de la société civile dans des pays du Sud. Et face aux différents défis économiques que rencontrent justement les membres et les bénéficiaires de ces associations dans les pays du Sud, ils ont eu l'idée d'essayer de mettre en place un mécanisme pérenne, et j'insiste sur ce mot, qui puisse venir les appuyer dans leur projet économique à forte valeur ajoutée sociale si possible, et environnementale, c'est une composante qu'on a intégrée de plus en plus. Donc la CIDI travaille principalement à l'étranger, on est basé à Paris, on fonctionne avec des ressources financières, un capital qui est issu pour une grande partie du CCFD, donc ce capital appartient en grande partie au CCFD, qui est actionnaire majoritaire. Il y a ensuite des acteurs institutionnels, français, européens, un certain nombre d'acteurs de la finance dite solidaire et alternative européenne. On verra qu'il y a aussi des acteurs traditionnels plus classiques, de l'aide au développement. Et il y a aussi des actionnaires individuels. Voilà, donc, moi, par exemple, bon, je n'ai pas encore de sous parce que je suis trop jeune, et que c'est la crise, mais quand j'aurai un capital et que je voudrais... le placer en épargne et qu'il puisse servir à alimenter des projets qui m'intéressent et que je trouve pertinents pour développer l'économie réelle de ces pays du Sud, je peux aussi investir dans la CIDI, devenir actionnaire.
Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parle peut-être après des projets justement qui sont développés, parce que c'est intéressant aussi de rentrer, d'aller sur le terrain, quoi, de voir concrètement comment ça se passe. On a une petite pause musicale.
Oui, on a une petite tradition dans ces émissions pour nos nouveaux invités là, c'est qu'on reçoit dans chaque émission une invitée musicale qui va nous interpréter un morceau en live et en acoustique. Alors pas tout à fait en acoustique, parce qu'aujourd'hui on reçoit Marianne. Qui va nous chanter une chanson sur une bande-son. Marianne, bonjour. On va lui mettre un micro.
Voilà.
Ça n'est pas la peine de parler trop près du micro. Tu vas tout de suite nous dire quelque chose. Marianne, ton nom de scène, c'est Marianne BP.
C'est BP, c'est pas Marianne.
Des initiales dont on raffole ici à Zoom Écologie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces initiales? C'est parce que nous, ça nous fait penser à une compagnie pétrolière un petit peu. Mais,
BP, en fait, à la base, c'est un secret, en fait.
Ah d'accord, faut pas en parler.
Non, mais pour ce soir, je me disais là, justement, en écoutant, je me disais belle plante, c'est bien pour Zoom Écologie.
Ah d'accord, ok, très joli.
Ou bonne pollution.
D'accord.
Bonne pollution, je pense.
Bon, alors Marianne, vous êtes une chanteuse, auteure-interprète, parolière, comme on voit sur votre site.
Oui.
Vous avez une manière de décrire votre époque avec un ton un peu tranchant, un peu cru par moments.
Voilà.
Vous avez pas mal de projets, donc vous chantez depuis longtemps.
Alors, ça fait 2 ans que j'ai commencé les projets scéniques, disons.
D'accord.
Donc, j'ai 3 projets scéniques donc sous le nom de Marianne BP, Belle Plante et Bonne Pollution. Voilà. Donc, un projet qui est plus musical, plus chantant, parce que je me suis mise à chanter progressivement. Donc là, le but, c'est de reprendre des textes de standards de jazz, donc majoritairement écrits par des Américains.
D'accord.
Et de les traduire en français, donc d'avoir une partie dans la même chanson, une partie américaine, une partie française, sur des morceaux qui sont composés. Là, donc vous allez...
c'est le morceau qu'on écoutera à la fin
de
l'émission.
Voilà, vous avez la gentillesse de le passer. Donc c'est une démo qui a été produite par Monsieur Clément Mirguet et chantée par moi.
D'accord.
Deuxième projet...
Bonjour à Clément.
Voilà, bonjour Clément. Très talentueux et très écolo aussi. Voilà. Le deuxième projet consiste à incarner des objets sur scène ou personnages, donc à me transformer. Donc je vais vous faire un extrait tout à l'heure. Le troisième projet consiste à faire de la chanson française sur une musique un peu électro-minimale, donc que j'ai faite avec un membre du groupe Nino et Mode 2, donc avec, par Nicolas Carrasco, que je remercie aussi. Et
donc pour pas trop s'embrouiller, là vous allez chanter une chanson plutôt sur le deuxième projet dont vous parliez.
Voilà, le
où,
Je me transforme. Ouais.
C'est tout un projet sur Je me transforme en fait. Voilà. À chaque fois vous prenez une métaphore d'un objet
pour décrire une
situation.
D'un homme ou d'une femme.
Et là vous nous parlez d'un homme et l'objet c'est un marteau piqueur. Donc ça dit ce que ça dit, c'est assez explicite.
C'est sur un Don Juan mais réactualisé en fait. Un peu comme la pièce de Don Juan mais sauf que là c'est en plus court, musical et réactualisé. Voilà.
D'accord.
Donc,
On va vous écouter. Est-ce que Cyril, qui nous sauve la vie toutes les troisièmes jeudis, était prêt à la technique pour cette prouesse du jour? C'est bon, Cyril, tu nous envoies cette bande son et on écoute Marianne BP.
Seraient-elles offusquées que je leur monte dessus, que mes muscles fessiers acérés les percutent, que leurs regards pointus s'évadent de leurs orbites. Je les ai attrapées, elles se sont perdues puis enfuies. Je les hais comme elles me haïssent, et même pire, car elles me trahissent. Quelle sera la prochaine sur ma liste? Une intelligente peut-être qui m'évaluera à ma juste valeur de marteau piqueur. Marteau piqueur, et moi le soir je vais dans les bars, bois quelques verres pour leur compter quelques verres. Elles s'assoient près de moi, puis je les croise dans mes fantasmes nus, les croquant toutes crues à chaque coin de rue. Je suis en route de pute, et à 2h du mat, le patron me sort du bar. Je vois trouble, mais je continue à sentir dans mes mains cette dulcinée hallucinée. Je parcours mes vues, tentant de la capturer, mais je n'attrape que le trottoir et mon heure de gloire s'enfuit de ma destinée. De marteau piqueur, marteau piqueur, marteau piqueur, et je retrouve ma maison close, vide de féminité. Elles m'ont encore trahi, ces garces de nudité, me laissant seule, rabougrie sur mon canapé. Alors je mate la télé, un barreau allumé dans mon pantalon, du nez, le rapport. je me réveille, sale odeur, ce barreau allumé. Alors je vais dans ma salle de bain, elle éteint dans ma salle de main. Et je m'assois sur mes toilettes, face à mon miroir de matin. J'admire ce visage carré, éreinté, quand j'y pense. Lorsque j'arrive à les baiser, en fait, je ne fais que les baiser. Mais leurs culs ont tous le même visage, comme le mien ce matin. Et ne suis-je qu'un pantin qui n'aime que la fesse? Ne suis-je qu'un lutin à gants de velours, goût pêche, goût fraise, qui aime les ananas? Je m'étonne qu'elle ne m'aime qu'à travers une capote. Je m'étonne qu'elle se barre enceinte de ma vulgarité. Je suis pourtant très beau, elle me le souffle du fond de leurs rêves. Mais je rêve, je rêve. Je rêve. Mon placard est bourré de morceaux de plastique et je les recycle, les utilise et les place dans ma poubelle à plastique. Je suis un cyclo-baiseur, un cyclo-baiseur. Mais pourquoi ne m'aime-t-elle pas? N'aime-t-elle pas la fraise, la pêche, marteau piqueur? Suis-je ridicule? Suis-je ridicule? Suis-je un de ces hommes qui font rire tant d'assemblées avec leurs désirs et frustrations? Ma caquette à tête chercheuse de fesses à décorer mène-t-elle une idiote de quête? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais plus. Je ne sais plus, mais s'il faut que je baise comme un marteau piqueur, marteau piqueur, marteau piqueur, marteau piqueur, marteau piqueur, marteau, marteau piqueur.
Merci, et puis en plus Cyril a eu la chance de se faire dédicacer cette chanson.
Voilà, merci.
Très
Cyril.
Flatteuse pour la jante masculine. Voilà. Donc une vision assez noire quand même de
l'individu. En fait, ce monologue-là, je l'ai écrit pour des acteurs à la base, c'est comme ça que j'ai commencé.
D'accord.
Donc, je l'ai écrit pour des acteurs qui cherchaient des textes qu'ils pouvaient présenter sur scène pour des auditions, etc. Donc je me suis transformée en homme, Don Juan. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'on vous retrouve prochainement dans des concerts, des événements?
Là, je suis en train de préparer des dates. Après, l'actualité principale, ça va surtout être sur Internet. Donc, je programmerai mes dates sur Google. Vous tapez simplement Marianne BP et vous avez accès à Facebook, MySpace, tous les moyens de communication à la mode. J'imagine pour les inviter aussi un petit peu de communication par Facebook pour avoir des dons. D'ailleurs, si vous faites des concerts pour collecte de dons, il n'y a pas de souci, voilà.
D'accord.
Bienvenue.
Merci.
Donc merci Marianne. J'en profite pour dire qu'on s'est rencontrés
via Élie Guillou,
ouais. Qui est cet artiste qu'on avait reçu il y a un an pile et qui organise toujours chaque premier mercredi du mois à Paris ce qui s'appelle le Lavomatic Tour, c'est-à-dire des concerts dans les lavomatiques où plein d'artistes se retrouvent pour jouer en toute informalité, je ne sais pas comment on dit, enfin... En toute amitié, chacun interprète une chanson. C'est un moment très sympa, ça s'appelle le Lavomatic Tour. Voilà, si vous voulez rencontrer plein d'artistes avec leur guitare, c'est le premier mercredi de chaque mois à Paris et le premier jeudi de chaque mois à Rennes. Et ça va s'étendre, je crois, d'ailleurs, dans une ville du Nord, je ne sais plus laquelle. Ouais. Merci Marianne, on va revenir.
Je vous remercie aussi de m'avoir invité et de de recevoir des artistes indépendants. C'est
un plaisir,
c'est
toujours.
Gentil,
on passe
merci.
Un bon moment à chaque fois. Merci beaucoup Marianne.
Merci à vous.
On va revenir. Alors, notre invité au téléphone n'a pas téléphoné. Donc, on va avoir plus de temps pour revenir à nos deux invités qui sont sur place. Comme quoi, finalement, c'est comme pour l'économie. Il faut mieux qu'elle soit réelle. Il faut mieux que les invités soient sur place.
Et Terre de Liens est en terre inconnue pour l'instant.
Voilà. Alors, on revient avec vous, Emmanuel Beau. Donc, on a compris que vous êtes finalement Sidi. C'est un investisseur social, en fait, et solidaire. Vous financez... avec des acteurs du Nord, des actions qui sont menées plutôt dans les pays du Sud.
Tout à fait.
Quel genre d'initiative ? Est-ce qu'on peut parler un peu de...
Alors, très concrètement, qui sont nos partenaires ? C'est des associations locales, des organisations de producteurs, par exemple, donc des organisations paysannes, des institutions de microfinance. Ensuite, quelle que soit leur forme juridique, grosso modo, ce sont ces deux types principaux.
Vous êtes là pour récolter les fonds, en fait. Vous n'êtes pas là pour...
Et ensuite, on va, en gros, mobiliser des fonds pour pouvoir leur prêter de l'argent et ou investir dans leurs entreprises. Parallèlement à ça, on va, au-delà des services financiers qu'on propose, aussi fournir de l'assistance technique. Parce que y a un certain nombre d'autres investisseurs sociaux. Nous, notre spécificité, c'est de pouvoir fournir de l'assistance technique gratuite, c'est-à-dire qu'on ne va pas la facturer. Et ça, c'est un des gros plus de la CIDI qui est permis par un mécanisme d'épargne solidaire innovant dont on parlera peut-être plus précisément tout à l'heure.
Il faut mieux en parler tout de suite.
Hein, en parler tout de suite.
Pour moi, c'est super vague, en fait.
Ok, très concrètement. On va les prêter donc à l'institution de microfinance, disons, au Sénégal. Donc une petite coopérative.
En plus, vous connaissez bien le Sénégal, exactement. Donc vous avez peut-être des projets dont vous pouvez parler.
Très concrètement.
Moi, j'aime bien avoir...
un projet concret. Bon, alors, par exemple, à Méré, au Sénégal, donc sur la côte atlantique ouest de l'Afrique.
Puis il y a le soleil, en plus.
Un beau soleil. Une petite ville en milieu rural. Des paysans se sont regroupés pour monter leur coopérative d'épargne et de crédit, c'est-à-dire qu'ensemble, ils vont cotiser, épargner et se prêter les uns les autres. D'accord ? Bon, maintenant, leur masse d'épargne est petite. Donc, pour pouvoir véritablement financer un maximum de projets économiques, il aura fallu aller chercher des ressources économiques extérieures. Ils se sont adressés à la CIDI. La CIDI, on les a accompagnés pour définir leurs projets. Et puis, on a prêté de l'argent à cette coopérative d'épargne et de crédit qui va reprêter derrière aux paysans locaux. OK ? Maintenant, on va donc prêter cet argent-là à des conditions relativement douces. Pourquoi je dis relativement ? C'est parce qu'on applique un taux d'intérêt qui est bien inférieur à celles, aux conditions qui sont pratiquées par les banques locales. Si cette coopérative voulait aller voir la BNP locale, eh bien, ils auraient ils auraient sûrement pas accès au crédit tout court. Parce qu'on leur dirait, oh, mais quelles sont vos garanties ? Vous êtes des paysans, votre activité génère quasiment rien. Vous êtes soumis à tout un tas d'aléas. Bref, c'est vraiment pas le secteur bancable. Donc, on va aller financer ce genre d'activité-là, principalement en milieu rural. On essaye de donner une forte orientation milieu rural dans les pays en voie de développement parce que c'est beaucoup moins sexy et attrayant que le milieu urbain. Finalement, il y a tout un tas d'autres investisseurs sociaux qui vont aller en ville où là, il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'activités. Et le milieu rural est délaissé alors que ça représente une grosse partie de la population, un énorme potentiel de développement. Le secteur agricole et les activités primaires sont importantes.
Et puis, ce n'est pas intéressant pour une banque parce que c'est des micro-projets.
Ce sont des tout petits crédits. Mais quand bien même la coopérative représenterait une masse importante de tout petits projets, c'est-à-dire que si la banque ne s'intéressait pas directement aux bénéficiaires finaux, mais à leur faîtière, malgré tout, ces coopératives d'épargne et de crédit, ces institutions de microfinance, ont du mal à se refinancer localement. Donc très concrètement, on va financer des projets économiques indirectement en passant par ces structures locales qui, elles, fédèrent tout un tas de micro-entrepreneurs et d'épargnants. Voilà.
D'accord. Alors, dans ce genre d'activité, vous n'êtes pas tout seul ?
Non.
J'imagine, parce qu'on en entend parler, il y a des organismes de microcrédit, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait un peu votre spécificité ? Pourquoi on vous a invité, vous, plutôt que...
Alors, pourquoi nous ? Bah, écoutez, parce que nous sommes les meilleurs. Non, pas du tout. Parce qu'on n'est pas du tout les meilleurs, ni les plus vertueux. Mais c'est vrai que les fondateurs de la CIDI ont eu des intuitions qui sont reconnues par un certain nombre d'acteurs du secteur. Quand je vous parlais tout à l'heure d'avoir de l'assistance technique non payante, la plupart des investisseurs sociaux, quand ils vont fournir de l'assistance technique, c'est-à-dire qu'ils envoient un consultant blanc qui tombe de l'avion, il faut payer son billet, il arrive sur place, il va rester une semaine, il va donner son conseil, il faut que quelqu'un paye. Et généralement, ça va être payé par le taux d'intérêt qui est appliqué sur le montant qu'on a prêté. Okay ? Nous, justement, on essaye de ne pas avoir à faire subir ce coût par notre partenaire. Et donc, pour financer cette assistance technique, le crédit coopératif avait monté avec le CCFD un produit d'épargne qui s'appelle un fonds commun de placement, fin et développement, qui génère chaque année des petits intérêts. Et les gens qui ont choisi ce produit d'épargne peuvent décider d'octroyer une partie de ces intérêts générés par leur capital à la CIDI pour des missions d'assistance technique. Et donc, on a un mécanisme pérenne qui nous permet de prendre en charge ces coûts-là.
Donc, c'est un don qu'ils font là, à ce moment-là.
Et en l'occurrence, c'est un don.
Parce que c'est de l'argent.
Mais ça ne leur coûte, ça ne leur diminue pas leur capital. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est généralement des gens, par exemple, qui ont atteint un certain âge, j'avoue qu'il y en a malheureusement peu de ma génération, mais qui ont un héritage. Bon, ils ne veulent pas donner parce qu'ils ont à avoir à financer un certain nombre de projets de leurs enfants. Ils ne veulent pas réduire leur capital, mais grâce aux intérêts générés par leur placement, ils peuvent donner. Et ensuite, en devenant actionnaires aussi de la CIDI, ils peuvent le devenir en parallèle, ils vont donc mettre des actions à la CIDI et ils vont pouvoir récupérer leur capital le jour où ils veulent récupérer leur épargne.
Et en l'occurrence, c'est des investissements qui ne sont pas risqués. Parce que, tout à l'heure, Thierry Philipponat nous parlait des investissements risqués des banques et c'est là que porte la question actuellement.
Ah, ce sont des investissements risqués, hein. Les investissements sont toujours risqués quelque part. Mais là, on va aller d'abord chercher, première chose, une valeur ajoutée sociale. C'est-à-dire que la personne qui fait cet investissement-là, elle ne cherche pas un retour financier. Aucun actionnaire de la CIDI n'a jamais demandé de dividendes. Sans ça, c'est une grosse particularité. On est une société anonyme, nos actionnaires ne demandent pas de dividendes. Ils le pourraient, mais il y a un consensus explicite pour ne pas demander de retour financier. D'autre part, les projets qu'on finance sont éminemment risqués, comme n'importe lesquels. Ils sont même beaucoup plus risqués que la plupart des autres secteurs. Au contraire, quand on finance un projet agricole, il y a une nuée de criquets qui arrive. Ce sont des secteurs souvent très risqués. Et la plupart des institutions de microfinance ont justement du mal non seulement à couvrir ces risques-là, donc elles sont très difficilement à l'équilibre financièrement, et elles ont souvent besoin d'une part de subventions en plus des ressources en prêt qu'on peut leur fournir.
Mais comment vous arrivez à convaincre des gens pour financer ce type de projet alors que, comme vous le décriviez, j'allais vous chercher un petit peu quand même en vous disant il n'y a pas de risque.
Eh ben, il y a un risque et on cherche justement des gens qui non seulement acceptent ce risque mais sont prêts à le prendre parce qu'ils vont avoir derrière un investissement à forte valeur ajoutée sociale. Ce qu'on cherche ici, c'est moins le retour financier et ou récupérer son capital, mais c'est bien à impulser une dynamique qui, derrière, va créer des emplois, créer des revenus supplémentaires, améliorer les conditions de vie et de production des populations dans les pays dans lesquels on travaille. Et alors, comme on est chez Zoom Écologie, on a aussi des projets de financement un peu green, donc notamment en ce qui concerne l'accès aux énergies renouvelables. Toujours l'exemple au Sénégal, un paysan en brousse, aujourd'hui, il rentre chez lui dans sa case, à 7 heures, le soleil se couche, il a des bougies, des piles, il se démerde. Il n'a pas la télé, il a la radio, et pour recharger son portable, il fait des kilomètres, et ça lui coûte. Aujourd'hui, pour avoir accès à l'électricité, eh bien, il faudra qu'il attende 20 ans d'avoir le réseau qui arrive vers son village, ou alors qu'il s'achète un groupe électrogène qui pue, qui pollue, qui fait du bruit. Donc, ce qu'on a essayé de mettre en place avec cette organisation de paysannes dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle l'UGPM, et cette coopérative rurale d'épargne et de crédit, c'est un mécanisme qui permet à ces paysans d'accéder à un panneau solaire, de le payer à crédit sur la base de ce qu'ils dépensaient déjà pour des énergies de substitution, des piles, des bougies, du pétrole. Ils dépensaient, disons, 5 dollars par mois, pas lui tout seul, mais c'est en gros une famille de plus de 10 personnes qui dépensent 5 dollars. Avec ces 5 dollars-là, il va pouvoir rembourser un crédit qui lui aura permis d'acheter un kit solaire.
Donc il n'aura pas dépensé plus.
Il deviendra propriétaire et il va pouvoir améliorer ses conditions de vie. Et si c'est un système qui permet de produire, d'avoir une petite activité, il pourra avoir éventuellement un revenu supplémentaire. Voilà.
Alors c'est intéressant parce qu'on se met dans une façon de voir le monde et pas seulement la finance, complètement autre. Cette question un peu des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément dans la finance et où finalement on nous a tout le temps inculqué qu'on place de l'argent, c'est pour gagner de l'argent.
Non, pas forcément. On peut le placer pour, d'une part, avoir une masse critique. On utilise l'argent pour faire des projets, quels qu'ils soient, de consommation, de production, d'amélioration de notre bien-être.
Puis de la vie sociale. Et c'est ça qui est super intéressant, finalement. Et du coup, on en arrive à voir le monde autrement. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait peut-être en arriver plutôt?
J'ai envie de revenir sur vous, Thierry Philipponat.
C'est un peu ce qui me chatouillait aussi. Merci, Alexandre.
Pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi.
Mais c'est pas grave. Alexandre, ça ne l'intéresse pas. Parce que je me tais.
Non, parce que j'avais envie d'avoir votre avis, Thierry, sur... vous avez l'air de faire, enfin vous êtes tous les deux dans la finance, c'est des métiers très différents. Est-ce que vous, Finance Watch, vous avez un regard sur ces, vous avez des contacts déjà avec ce genre d'organisme de microcrédit? Est-ce que vous allez vous rencontrer un jour? Est-ce que c'est vraiment des champs de la finance qui ne se croisent pas du tout?
Alors déjà le la maison mère, j'ai envie de dire, de la CIDI, c'est le CCFD. Le CCFD est membre de Finance Watch.
D'accord.
Donc déjà,
on est de la famille.
Ça vous montre qu'on est vraiment dans des mouvances fort similaires. Après ça, ce qu'on vient d'entendre sur la CIDI, c'est exactement la même chose que ce que je disais, j'ai envie de dire, sauf que c'est sur le terrain, c'est concret. C'est-à-dire qu'il y a deux conceptions de la finance. Première conception, tiens, l'argent, c'est une énergie. Ça permet de faire des choses. Eh ben, on va apporter de l'énergie à la société, à la vie, aux gens qui ont une vie à mener. Et voilà. Puis il y a une deuxième conception, je reprends ce que je disais tout à l'heure, qui est, tiens, il y a un truc qui bouge, je vais parier dessus. Mmh. Okay. Je voyais l'analyse des résultats, des profits de certaines grandes banques d'affaires au premier trimestre de cette année, qui expliquait noir sur blanc, c'est formidable, en communication, pour nous, c'est un vrai bonheur. On a gagné beaucoup d'argent grâce au désastre japonais. Bon, c'est formidable, c'est super, je suis très content pour eux. Bon, voilà, sans commentaire. Donc voilà, on est juste en train de parler de choses qui n'ont rien à voir. Donc, quelque part, tout le plaidoyer de Finance Watch, c'est pour te dire, OK, si on arrive à avoir un secteur financier qui fait son métier, c'est-à-dire qui contribue à la vie, à l'économie, à la société, ça va. Après ça, ça ne veut pas dire qu'on a résolu tous les problèmes de la Terre. Hein. Mais enfin, de ce point de vue-là, on aura fait un sacré chemin. Si on a un secteur financier qui fait juste autre chose, ça n'a pas de sens. Donc, on est totalement sur la même longueur d'onde. J'ai envie de dire, quand tous les financiers feront ce que fait la CIDI, il n'y a juste pas besoin de Finance Watch. Donc voilà, si CIDI conquiert la planète, on peut fermer Finance Watch.
Inch'Allah.
D'accord. Il n'y a pas longtemps, on m'a expliqué de manière très simple la manière dont on pouvait gagner de l'argent quand un produit baisse. Alors je vais vous l'expliquer, vous allez me dire si c'est valable. Parce que ça m'a semblé très simple et j'avais envie d'expliquer ça à nos auditeurs. Alors par exemple, vous avez une chemise. Bon, on m'a expliqué que ça marchait comme ça. Hein.
Allez-y.
Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Vous avez une chemise, vous me la prêtez, je la vends à quelqu'un, je la vends 10 euros. Cette chemise perd de la valeur, donc je la rachète à 5 euros et je vous la rends. Donc entre les deux, le produit, votre chemise, elle a perdu de la valeur et moi j'ai gagné 5 euros. C'est ça le marché des produits dérivés ?
Votre description est parfaitement exacte. Il n'y a rien à redire, c'est comme ça que ça marche.
C'est comme ça que ça marche. Donc on peut faire de l'argent facilement quand les produits baissent.
Alors non seulement c'est comme ça que ça marche, mais cette technique représente aujourd'hui des encours qui sont l'équivalent de 12 fois le produit brut mondial. Produit brut, c'est une mesure de la production économique réelle. C'est 12 fois plus gros que le produit brut mondial.
Mais c'est-à-dire que les acteurs se sont mis d'accord entre eux pour se prêter des chemises, quoi, en fait, c'est ça?
Alors, pour s'échanger, tout et n'importe quoi.
D'accord.
Alors, l'essentiel, c'est les actions, les obligations, les devises... mais ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors, la justification de cette technique, je vais commencer par défendre la technique.
Ouais.
Défendons-la, on ne va pas faire dans le simplisme. La justification de la technique, c'est que si vous avez un risque, un vrai risque, vous êtes producteur de chemises et vous avez un risque que la baisse des prix de la chemise vous fasse perdre de l'argent, vous pouvez avoir envie de couvrir votre risque. Donc, vous allez prendre cette technique pour gagner sur la technique que vous avez décrite, ce que vous allez perdre par ailleurs. On pourrait débattre jusque demain matin du détail, mais on va dire que globalement, ce n'est pas forcément choquant. D'accord ?
Ah, oui.
Le seul problème, c'est quand vous n'avez pas de stock de chemise et que vous spéculez dessus pour gagner quand ça perd. Donc là, ça s'appelle prendre une assurance incendie sur la maison du voisin. Donc voilà, vous n'avez pas assuré votre maison. Si vous assurez votre maison, ce n'est pas scandaleux. Un produit dérivé, c'est une assurance. Hein. Mm-hmm. C'est la même chose, enfin, dans le concept. C'est une assurance. Donc assurer sa maison, ce n'est pas scandaleux.
Voilà.
Assurer la maison du voisin, c'est déjà plus problématique. Et puis au fait, après ça, tiens, si on met le feu à la maison du voisin, on va gagner de l'argent. Donc c'est quand même une sacrée incitation. Donc les problèmes, ils sont là. Et alors les problèmes, ils ne sont que multipliés quand c'est sur des volumes qui sont juste phénoménaux, quoi. Ça n'a plus aucune réalité économique. Mmh. Quand on est en train de traiter sur 10 fois ou 12 fois la production entière de la planète, les chiffres n'ont plus de sens.
Mais est-ce que dans votre... on parlait de communication tout à l'heure, dans les axes de communication, dans la vulgarisation, il ne faudrait pas aussi expliquer aux gens... un peu ces mécanismes.
Tout à fait.
Et notamment tout ce qui est lié, on parlait d'intérêt général tout à l'heure, moi c'est très bien, on est dans un individualisme exacerbé où chacun veut faire fructifier son argent. Et il y a quand même l'intérêt général derrière, et vous en avez beaucoup parlé d'ailleurs tout à l'heure.
Oui, nous notre position là-dessus, c'est que c'est pas un mal de gagner de l'argent, à condition que ça se fasse pas au détriment de l'intérêt général et de la société. Donc après ça, faut trouver un équilibre, mais c'est vraiment le « à condition ». Et alors sur le côté vulgarisation, grand public, nous on a créé un statut d'ami de Finance Watch. J'incite tous les auditeurs à venir s'inscrire comme ami de Finance Watch sur le site internet de Finance Watch. On a déjà plus de 5000 personnes qui se sont inscrites comme amis de Finance Watch, ce qui veut dire concrètement qu'on va leur envoyer une newsletter très régulièrement qui aura précisément comme objectif de faire passer les messages essentiels de façon simple mais pas simpliste. C'est-à-dire qu'on dira, ça ne sera pas du yaka faucon ou raconter des choses qui ne sont pas réelles, par contre, ça sera abordable. Donc voilà,
c'est puis ça arrive à faire comprendre de communication. C'est plutôt une bonne idée, parce qu'arriver à faire comprendre aux gens que la bourse, ce n'est pas un jeu, mm-hmm. et que ça peut se faire au détriment des autres.
C'est tout ça, la finance, c'est un outil. C'est comme un marteau. Alors le marteau, si vous l'utilisez pour enfoncer un clou, c'est utile. Si vous l'utilisez pour taper sur la tête de votre voisin, ce n'est pas utile. Mm-hmm. Donc voilà, le tout, c'est de l'utiliser
bien. Est-ce que vous allez, dans les mois qui viennent, surveiller ce qui se dit dans la campagne présidentielle? Est-ce que vous surveillez déjà? Est-ce que vous allez réagir par rapport à ça? Parce que j'imagine que vous entendez des énormités, ça doit vous faire bondir au plafond.
Oui, forcément. On est très concentré sur, en gros, la réforme du système financier pour essayer de le faire avancer. Et on s'attache farouchement à être non politique et apolitique. Mmh. Pour une raison qui est très simple, c'est que notre axe de travail, c'est de rentrer dans le débat. Et puis de discuter avec tout le monde, parce que la notion d'intérêt général, c'est pas une notion de droite, c'est pas une notion de gauche, c'est une notion au cœur de la philosophie politique occidentale. Donc on va pas rentrer dans le débat à dire tel candidat a dit ceci, on est d'accord, c'est tel candidat. Ouais. C'est pas notre métier. Pas notre métier. Je pense que c'est important de rester concentré sur son métier.
Ouais, d'accord. Là vous restez un peu dans la lignée justement de Greenpeace dont on parlait au début, qui
tout à fait
pas l'objet, quoi.
Tout à fait. Tout à fait.
D'accord. Et eh ben vous allez être occupé, hein, je pense.
Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire.
Vous avez du pain sur la planche. Vous avez une équipe d'optimistes autour de vous, quand même.
Oui.
Les 17 personnes que vous avez recrutées là, très récemment, ils en veulent.
Vous connaissez la fameuse phrase, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est un peu ça. Hein. Quand on réfléchit à l'ampleur des sujets, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis on se réveille le matin, on se dit, on y va. Puis petit à petit, quand même, il y a des choses qui se passent. Donc c'est sympa. Mais tous les boulots d'ONG sont ça. Hein. Moi, je... pas mal travaillé avec Amnesty International avant. Bon, si on le prend sous l'angle de « est-ce qu'il y a toujours des gens qui torturent dans le monde ?», c'est totalement déprimant. Et puis après ça, on se dit que quand on fait avancer un sujet une fois de temps en temps, bah, c'est déjà pas si mal.
C'est une petite victoire, quoi.
C'est à peu près ça.
Très bien. Emmanuel, vous vouliez ajouter
quelque chose ? Non, je dis certes, on pourrait être tenté d'être pessimiste, mais au contraire, on n'a jamais eu une telle opportunité de repenser notre système financier avec la crise qui s'est abattue depuis 2007. On croyait qu'elle s'était estompée. Enfin, en tout cas, différents messages nous ont fait penser qu'elle tendait à s'estomper. Au contraire, les fondamentaux qui ont amené à cette crise sont toujours présents. On n'y a pas travaillé. Les solutions qu'on a mises en place sont des pansements sur une hémorragie beaucoup plus profonde.
Oui, alors, excusez-moi, ça me fait rebondir sur une question.
Et donc, le mouvement des indignés, ces mouvements sociaux-là, c'est une lame de fond. Je le souhaite, hein. Je suis peut-être idéaliste, mais enfin, je pense que c'est une lame de fond qui doit nous amener à changer de regard. C'est ça la plus grande aventure, transformer le regard que l'on porte sur la finance. Justement, la campagne du CCFD cette année, c'est « aidons l'argent ». Qu'est-ce que ça veut dire « aidons l'argent » ? Aidons l'argent à devenir utile socialement, aidons l'argent à sortir des paradis fiscaux, aidons l'argent à amener de la cohésion dans nos familles, dans nos communautés, dans nos sociétés.
D'accord. Je reviens sur vous Thierry, justement, parce que c'est une question, vous avez évoqué le problème, mais entre ces deux crises, il n'y a vraiment rien qui a été fait ? Il y a quand même des choses qui ont été faites.
Il y a des choses qui ont été faites et on a fait peut-être 2% du chemin nécessaire.
D'accord.
Donc c'est bien, on a été dans la bonne direction, sauf qu'on a fait 1% du chemin. Et 1% du chemin, bah voilà, c'est juste pas suffisant.
Et, dans le 1%, il y a la création de Finance Watch, justement. Bon,
c'est gentil de dire ça.
Bah donc, si, c'est la première fois.
Ça, c'était le deuxième pourcent, peut-être.
Non, non, mais bon, il y a quelques mesures qui ont été prises qui ont franchement un sens technique. Mais les gros sujets vraiment fondamentaux n'ont pas évolué d'un pouce ou tellement peu que voilà.
Si on essayait les principales raisons de ça, c'est quoi ? Question de la naïve.
Non, non, c'est pas naïf. C'est au contraire, c'est juste la bonne question. Il y en a plusieurs de bonnes questions, mais c'en est une.
Je pense que... Si je peux me permettre, bien sûr.
Je
pense qu'une des raisons tient justement au fait que personne, pardonnez-moi l'expression, ne bite quoi que ce soit à la finance en dehors de ceux qui la gèrent actuellement. Et c'est justement un des soucis. Aujourd'hui, peu de gens, y compris parmi les décideurs, sont capables d'opposer aux acteurs de l'industrie financière des arguments rationnels avec le même jargon. Ça, c'est un des éléments. Si on ne maîtrise pas, justement, dans l'opinion publique, les éléments de la science économique, de la science financière, des techniques financières, quand on a un banquier qui nous dit « Oui, mais écoutez, avec mon default swap, etc., etc., je ne peux rien », on se fait loser assez rapidement. Je caricature, mais enfin, je pense que ça relève de ce problème de partage, justement, de la connaissance.
Évidemment. Il faut lutter contre l'ignorance, quoi.
Exactement.
On va conclure cette émission. On a un petit peu débordé, mais l'émission d'après avait un petit peu de retard. Donc voilà, on a profité pour parler un petit peu plus. Bonjour. Je remercie d'abord nos invités.
Merci à vous
d'avoir participé. Donc Thierry Philippona de Finance Watch. L'adresse du site, c'est
www.finance-watch.org.
Voilà, je vous invite à vous y rendre.
Emmanuel Beau, de Sidi.
Écoutez, c'est l'heure des récitations de Sidi, www.sidi.fr.
Très bien.
Aussitôt dit.
Vous pouvez réécouter l'émission demain, vendredi, entre 11h et midi. Vous la retrouvez également sur le site, notre site internet, zoom-ecologie.net. Vous pouvez nous contacter par mail, zoomecolo3@gmail.com. C'était Zoom Écologie, le troisième jeudi, avec Sophie et à la technique Sophie. Bonjour Sophie, bonsoir Sophie, à dans un mois. On se retrouve le troisième jeudi du mois de novembre, qui sera le 17 novembre, je crois. Cyril était à la technique, Laurence était absente aujourd'hui, elle s'excuse, on a oublié d'en parler. Et voilà, donc prochain rendez-vous, le jeudi 17 novembre. J'ai un doute sur le 17, mais enfin c'est le troisième jeudi de chaque mois, l'émission c'est hebdomadaire. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt.
Merci.
Merci.